RCF. Le magazine régional de 18h10 à 19h tous les jours de cette semaine, sauf hier, bien sûr, mercredi le 1er mai. Dans notre agenda, bien sûr, nous reviendrons très largement aujourd'hui sur la marche des vocations. Hier, c'était Notre-Dame de Neuvisy. On en reparlera ce soir, tout à l'heure, avec l'interview de Mgr Étienne Véteux. Aujourd'hui, nos pèlerins autour de Mgr Éric de Moulin-Beaufort et Mgr Véteux sont partis d'Hermonville à 9h. À midi, ils ont célébré une messe avec les sœurs bénédictines de Saint-Thierry. Ils ont marché cet après-midi de Saint-Thierry à Muison. Et puis depuis quelques minutes, à 18h, ils participent à l'office des vêpres et l'adoration à l'église de Muison. On y revient dans un instant. L'actualité, c'est aussi Gérard-Marie Henry qui est avec nous avec Question d'écho. Il parlera du marché économique chinois. Votre maire nous parle et c'est Guy Lecomte, le maire de Courroy-les-Hermonville, qui est avec nous. On réentendra donc Mgr Véteux, que nous avons entendu ce matin avec d'autres témoins. Et puis nous reviendrons sur la gare de Reims, la magnifique, avec Hervé Jatriot, qui sera avec nous de la direction des gares de Champagne-Ardenne. Et puis pour terminer, on prendra la direction de Cerzy et Prin avec Jean-Jacques Frémaux qui propose à partir du 17 mai vraiment 3 jours exceptionnels dans la commune. On le verra tout à l'heure. Et puis l'actualité immédiate, c'est tout de même une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent le bus, parce qu'à partir du 8 mai prochain, Transdev Grand Reims va lancer une nouvelle ligne de bus qui sera l'une des premières lignes du nouveau réseau de mobilité qui va permettre de relier les 143 communes du Grand Reims. Ça sera officiellement lancé donc le 8 mai. La première ligne qui est lancée, c'est la ligne Grand Air, donc vers Verzy. Elle partira depuis la gare TGV de Reims et puis elle passera à Sassy, Écueil, Chamerine, Jean Sermier, Montchenot, Vinéralrand et elle ira jusqu'à Verzy, le phare de Verzenay et puis Verzy. Enfin, c'est une bonne nouvelle, on aura l'occasion largement d'y revenir. Mais tout de suite, on écoute Gérard-Marie Henry, c'est Question d'écho au micro d'Alexis Claudrette.
La question d'économie avec Gérard-Marie Henry. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour Alexis.
Gérard-Marie, aujourd'hui on change de continent, on va aller voir ce qu'il se passe en Asie et notamment du côté de la Chine.
Oui, parce que c'est la deuxième économie mondiale et c'est intéressant de savoir ce qui s'y passe. Vous savez qu'elle a connu un ralentissement assez important pendant la période du Covid, avec un blocage complet. Puis d'un seul coup, le gouvernement chinois a décidé d'ouvrir et il a fait tout pour que ça reparte. Et évidemment, il vient d'annoncer les résultats du premier trimestre 2024 et c'est dans les clous. Il a annoncé que la croissance chinoise avait atteint 5,3%, alors qu'il avait prévu seulement 5.
Alors, on prévoit 5, on atteint 5,3, on est dans les clous et même au-delà, Gérard-Marie Henry. Ça, c'est ce qu'annonce le gouvernement chinois. Est-ce que c'est une réalité lorsque vous êtes observateur économique ou est-ce que c'est un mensonge?
Alors, il y a les deux côtés. Il y a d'un côté, c'est la réalité. Effectivement, l'industrie chinoise a très fortement progressé, puisque c'est là-dessus que le régime de Xi Jinping a mis l'accélérateur. Donc ils produisent de plus en plus de voitures, ils produisent de plus en plus de panneaux solaires, de plus en plus d'éoliennes, de plus en plus de semi-conducteurs, etc. Et ils les exportent, ce qui pose problème aux autres pays. Ils ont des surcapacités, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc là, on a effectivement une croissance qui est débridée. Mais d'un autre côté, donc cette croissance qui est forte, elle cache mal le fait que l'économie chinoise, elle est en déflation. Ça veut dire que les consommateurs chinois ont peur de l'avenir, qu'ils n'achètent pas trop, et que pour de nombreux produits, les prix n'augmentent plus, sont plutôt orientés à la baisse, parce que les gens ont un peu la crainte de ce qui va se passer. Donc il y a les deux facettes. D'un côté, une économie qui se vante d'avoir un taux de croissance impressionnant, pour des comptes quand même, 1,3 milliard d'habitants et faire une croissance de l'ordre de 5%, ça représente vraiment un résultat fantastique. Et de l'autre côté, donc, une croissance qui ne se traduit pas au niveau des citoyens chinois par une forte amélioration de leur situation.
Mais si l'économie chinoise tourne bien, c'est aussi grâce à un contexte international global, Gérard-Marie Henry. Tout est un petit peu lié, finalement.
Oui, le contexte, et pour l'instant, on accepte qu'ils nous vendent à perte, pratiquement, toute une série de choses. On a encore des portes ouvertes, alors plus ou moins ouvertes, donc on commence à réduire un peu l'ouverture pour freiner un peu ce débordement de produits chinois, mais qui ont laminé complètement des secteurs entiers de nos économies. Il n'y a plus pratiquement de fabricants d'éoliennes, de panneaux solaires, etc., dans les pays européens.
Et bientôt plus de voitures électriques, de ce qu'on disait il y a quelques jours.
Et peut-être le même sort pour les constructeurs de voitures électriques. En même temps, donc, on commence à avoir une réaction de ces pays occidentaux, qui sont les clients évidemment préférés de la Chine et qui vont mettre un certain nombre de barrières. Donc cette croissance externe de la Chine, elle risque de ne pas durer ou elle risque d'arriver à un affrontement commercial assez important.
Vous parlez de barrières, Gérard-Marie Henry. Quelles sont celles que l'on peut mettre à la Chine, justement?
On en met déjà. On a dans les règles de l'OMC, qu'on n'a pas évoquées depuis longtemps, mais cette Organisation Mondiale du Commerce, vous avez le droit, lorsque vous considérez que votre concurrent vend à perte ou bénéficie de subventions, de mettre ce qu'on appelle des droits anti-dumping. Droit anti-dumping, ça veut dire, vous dites, tu vends ton produit 30% moins cher que ce que tu devrais le vendre, parce qu'on ne peut pas produire à ce prix-là, je te mets des taxes de 30%. Pour t'aligner au niveau où il faudrait. On a en ce moment à peu près 200 produits de ce type chinois qui subissent des taxes anti-dumping en Europe.
Donc finalement, pour ces produits chinois qui sont vendus en Europe, autant vendre le produit un peu plus cher que de subir des taxes? Quel regard faut-il avoir?
La solution chinoise, c'est de dire, vous me mettez 30% de taxes, je vais encore baisser mon prix, quoi. Je vais me débrouiller pour qu'avec ces 30%, le prix que va payer le consommateur n'augmente pas. Puisqu'ils sont en surcapacité, c'est-à-dire ils peuvent produire autant qu'ils veulent. Leur marché intérieur n'absorbe pas toute cette production. Et le reste, il faut bien qu'ils vendent, donc ils peuvent le vendre à perte.
Gérard-Marie, on parle d'une production qui fonctionne bien, mais est-ce qu'elle est qualitative, cette production?
En ce qui concerne les domaines qu'on vient d'évoquer maintenant, effectivement, en termes de panneaux solaires, d'éoliennes, etc., ils ont une qualité de production qui équivaut à celle qu'on pourrait faire. Donc, c'est pas de ce côté-là qu'ils ont des problèmes. Non, les problèmes qu'ils ont, c'est le reste de l'économie chinoise, celle qui est tournée vers les services, etc., des petites entreprises chinoises, celles qui sont pas subventionnées par l'État, elles vont pas bien. Et c'est pour ça que le gouvernement chinois, en fait, alors qu'il se vante de ce taux de croissance assez impressionnant, 5,3, je le rappelle, du premier trimestre, il ne publie plus toute une série d'informations qu'il publiait auparavant. Par exemple, le taux de chômage des jeunes a mystérieusement disparu. On était arrivé à un taux de chômage des jeunes qui était supérieur à 20%. Ça devait être de l'ordre de 22% des jeunes entre 16 et 24 ans qui cherchaient un job, donc un taux de chômage extraordinaire, pour les statistiques chinoises, supérieur à celui qu'on n'a jamais eu en France. Et donc, d'un seul coup, on n'a plus les informations. Et donc, ça veut dire que les choses ne vont pas aussi bien que ça.
Est-ce que la Chine, malgré tout, peut continuer à garder un certain cap, j'allais dire, de continuer à faire bonne figure et en même temps essayer d'améliorer ces petites statistiques internes qu'elles essayent de masquer? Est-ce qu'elles peuvent aller en s'améliorant, en s'arrangeant?
Alors, il faudrait pour cela qu'ils fassent des réformes. Il faudrait pour cela qu'ils passent d'un modèle qui est basé en fait sur l'industrie, les infrastructures, à un modèle qui soit basé plus sur la consommation intérieure. Mais donc ça, c'est pas évident. Et puis, ils ont besoin quand même de continuer à avoir accès aux marchés occidentaux financiers. Les entreprises chinoises qui ont besoin d'argent, elles aiment bien avoir des partenaires occidentaux qui viennent. Or, ces partenaires occidentaux qui avant couraient sur le marché chinois, un marché gigantesque, maintenant ils se font un peu tirer l'oreille parce que quand ils arrivent, ils aimeraient bien avoir des infos sur les entreprises avec lesquelles on leur propose de se marier. Les informations, on leur donne plus. Donc ils sont dans le brouillard et là, quand vous n'avez pas d'informations et que vous ne savez pas avec qui il faut travailler, vous dites « je vais aller voir ailleurs ». Donc les entreprises occidentales commencent à regarder beaucoup des pays comme l'Inde, comme par exemple la production d'iPhone de Apple maintenant est pratiquement déjà un quart faite en Inde, donc ce qui signifie beaucoup moins de production faite en Chine.
Et tout cela, c'est un handicap supplémentaire pour la Chine continuer son développement finalement.
Tout à fait, tout à fait. Et alors à chaque fois, un certain nombre d'analyses disent, si les choses se dégradent, le régime chinois va devenir encore plus agressif, risque de faire une opération sur Taïwan. Enfin, vous voyez un petit peu ce qu'a fait le régime russe sur l'Ukraine, c'est-à-dire j'ai des difficultés intérieures et pour qu'on ne les voit pas, je vais faire un peu la guerre ou faire des choses bizarres.
Gérard-Marie Henry, on a parlé de marché économique chinois à fort potentiel, on parlait de l'éolien, de la voiture électrique, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les marchés économiques sur, j'allais dire, les objets du quotidien ou la fast fashion. On pense à des entreprises comme Shein ou comme la marque Temu, par exemple, avec ce genre d'objets. Est-ce que là, c'est des entreprises qui, elles, arrivent à se développer? Parce que lorsque l'on regarde nos smartphones, notamment, ou même les publicités à la télévision, j'ai été marqué l'autre jour, notamment par une de ces marques qui faisait sa publicité, elles arrivent à envahir nos écrans, à notre quotidien ici. Alors, c'est des marques qui fonctionnent bien.
Tout à fait. Bon, aussi, l'exemple de TikTok, hein. C'est assez fabuleux. Donc, on a des Chinois intelligents, ça c'est absolument vrai, mais ce sont des entreprises privées qui ne sont pas tellement soutenues par l'État, qui pourraient avoir des obstacles, puisque peut-être que TikTok va se faire interdire aux États-Unis. Il y a en ce moment une grosse discussion au Congrès américain sur le fait que si TikTok ne vend pas sa firme à des acheteurs autres que Chinois, bah, il risque d'être interdit, parce qu'on considère que c'est une firme qui pompe un peu des informations. Et donc là, on a encore des inquiétudes sur les risques de tensions commerciales, de tensions qui pourraient dégénérer.
Eh bien, en tout cas, affaire à suivre. Merci Gérard-Marie Henry de nous avoir éclairé sur ce contexte asiatique et en particulier sur le marché chinois. On vous dit à très bientôt, Gérard-Marie.
À très bientôt, Alexis.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Guy Lecomte, le maire de Courroies-lès-Hermonville, est avec nous. Guy Lecomte, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est l'occasion de découvrir votre commune, monsieur le maire, Courroies-lès-Hermonville. Combien d'habitants aujourd'hui dans votre village?
Alors, c'est tout neuf. Hein. Le recensement était terminé ce matin. Donc, on est 538, si je me souviens bien. C'est tout neuf. Alors, une commune dynamique, puisqu'on a eu 32 installations dans des maisons neuves au cours de l'année 2023. Et puis, voilà.
Ah, c'est exceptionnel.
Une année exceptionnelle.
Alors justement, Guy Lecomte, pour situer, parce qu'on a aussi des auditeurs dans les Ardennes, bon, on connaît aussi Hermonville, mais Courroies-lès-Hermonville, combien de kilomètres de Reims à peu près?
Du centre de Reims, on est à 15 kilomètres et on y va directement, sans traverser aucun village.
Et donc, on met un petit quart d'heure, enfin.
On met un petit quart d'heure pour aller à l'entrée de Reims. Alors, ça dépend des bouchons, hein, bien sûr.
Alors ça, c'est, je vous interromps, Guy Lecomte, mais ça doit plaire à un certain nombre d'habitants aujourd'hui, parce que c'est quand même des habitations, ceux qui viennent, enfin, ils peuvent être en location, mais ils peuvent être aussi achetés. C'est sans doute un petit peu moins cher, et puis surtout, on a vécu le Covid, on sait bien quand même l'intérêt d'avoir un petit jardin, d'avoir un petit espace autour de soi plutôt que d'être dans un appartement. Ça doit certainement aussi jouer, non?
Ah ben depuis le Covid, il y a eu à peu près 40 habitations dans des lotissements qui ont été construits et qui sont pas tout à fait tous occupés parce que tout s'est pas terminé, peut-être mal terminé pour certains avec quelques sociétés qui ont déposé le bilan, ce qui est jamais évident, quelques problèmes financiers pour certains. Mais sinon, c'est vrai que le Covid a aidé et puis le prix des terrains qui tourne autour de 120-130 euros du mètre carré, ce qui est très raisonnable pour la région rémoise, a permis aux nouveaux habitants de s'installer à un prix, je pense, raisonnable.
Alors vous-même, Guy Lecomte, vous êtes maire depuis combien de temps? Et avant d'être maire, vous aviez sans doute peut-être été adjoint, vous étiez dans l'équipe municipale. Comment ça s'est exactement passé?
Alors, je suis au conseil municipal depuis 1983, donc 41 années bientôt. Adjoint 6 ans plus tard, donc j'ai fait 2 mandats d'adjoint. Et j'en suis à mon 4e mandat de maire, voilà, de maire depuis 2001.
Alors c'est vrai, là vous pouvez parler en connaissance de cause, il y a beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui hésitent à se lancer comme maire d'une commune, parce qu'on est quand même beaucoup plus qu'on ne le pense, de responsabilité, on est sur le terrain, on peut faire des reproches au maire, en tout cas, ou des encouragements, mais en tout cas on le voit le maire. Et ça, effectivement, ça prend plus de temps qu'on ne le pense.
Oui, c'est un travail à presque temps complet, parce qu'en plus je suis au bureau du Grand Reims, donc quelques réunions supplémentaires. Puis comme je suis courageux ou téméraire, je suis au conseil d'orientation du Grand Reims en eau, assainissement, en voirie, en ressources, donc ce qui occupe un peu. Mais aussi ça permet d'être au courant de pas mal de choses.
Mais au fond, quand on y réfléchit, et vous y réfléchissez sans doute, Guy Lecomte, le fait dans plusieurs structures comme ça, évidemment, on est occupé, il y a du temps. Mais en même temps, ce qu'il faut remarquer, c'est que ça aide pour la compréhension et pour faire vivre la commune, parce qu'on est au courant de beaucoup de choses. Quand on est au carrefour, on entend les échos ici ou là.
Absolument, c'est, pour moi c'est indispensable. Avec un maire qui ne peut pas se libérer pour aller à des conseils d'orientation et tout ça, qui n'est qu'au conseil communautaire, c'est un peu compliqué de s'y retrouver dans les méandres de l'administration de la communauté urbaine du Grand Reims. Mais bien qu'un coup de téléphone et puis on peut avoir les aides voulues de la communauté urbaine.
Alors Guy Lecomte, aujourd'hui en 2024, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que dans la commune il y a des choses en cours qui ont déjà lieu et qui se poursuivent? Est-ce que d'autres vont être mis sur les rails?
Déjà un gros projet obligé parce que notre église était en train de se détériorer. Donc on en est à la dernière tranche de remise en état de l'église qui date du XIIe siècle, qui est classée sur la même liste que Notre-Dame de Reims. Donc vous voyez, une église assez ancienne et puis des travaux qui n'ont pas été réalisés depuis 1925, un peu de désordre sur les toitures. Donc on va avoir injecté presque 1 200 000 euros sur notre église. Voilà le grand projet du mandat, avec la réfection d'une salle associative. On va avoir remis aussi sur le tapis pas loin de 700 000 euros. Alors ceci dit, bien aidé hein, par l'État, la région, le département, la DRAC pour l'Église, la Fondation du patrimoine pour l'Église. Alors ceci pour notre Église, s'il y a des sponsors qui veulent encore nous aider, ça serait très intéressant d'avoir un peu leur aide. En passant par la Fondation du patrimoine, quelques mécènes seraient les bienvenus. Et quand vous avez un petit budget de 250 000 euros de fonctionnement,
bien sûr,
et que vous mettez en 2023 1 109 000 euros de dépenses d'investissement, vous comprenez que derrière, il y a des emprunts.
Ah oui, absolument. Écoutez, on lance l'appel. Je ne sais pas si on aura des échos, mais en tout cas, vraiment. Et puis en plus, ça fait partie de l'identité d'un pays, de partie du patrimoine, même si les églises ne sont plus remplies comme autrefois. Des monuments de cette envergure, avec leur histoire, c'est quand même pour le patrimoine, pour des gens aussi qui connaissent la commune et qui veulent revenir dans leur église. Et aussi, tout ça, c'est quand même très important. Alors les sponsors, hein, il suffit de joindre la mairie de Corroy-lès-Hermonville, de joindre Guy Lecomte. Il est là, il vous attend avec sa tirelire, parce qu'il se dit allez, faites un effort, on réhabilite le patrimoine, on aimerait bien quand même avoir une petite aide. C'est ça, Guy Lecomte?
Absolument. Puis avec la Fondation du patrimoine, vous avez un abattement de 66% sur vos impôts, donc c'est pas négligeable non plus. Quand vous donnez 100, vous ne donnez en réalité que 34 euros, quoi. Bon. Voilà.
Alors avis aux amateurs, avis à ceux qui veulent aider les communes, et Dieu sait si elles sont importantes. On peut dire aussi que, bon, est-ce que au niveau de l'embellissement, tout ça, vous avez des choses en cours? Parce que bon, c'est vrai, vous avez des nouveaux venus, mais les gens, ils sont beaucoup plus attachés, peut-être qu'il y a quelques années, au cadre de vie. C'est très important.
On a toujours un comité de fleurissement qui est actif, mais qui... Alors, suite au Covid, a perdu pas mal de membres parce que les gens, tout ce qui est associatif, ou au moins à la campagne, je ne sais pas en ville, mais a pris un grand coup derrière la tête suite au Covid, où les gens hésitent peut-être plus à s'engager. Pourquoi, je ne sais pas.
En tout cas, Guy Lecomte, c'est l'occasion de nous quitter, mais provisoirement, parce que je suis sûr que sur l'antenne, vous allez revenir une paire de fois d'ici le mois de juin. On pourrait parler de votre commune. S'il y avait une fête, s'il y avait une manifestation, s'il y avait quelque chose qui concerne Corroy-lès-Hermonville, nous, on est dans les starting blocks. Hein. On est prêt, avec vous, Guy Lecomte, d'en parler. Hein.
On a toujours notre brocante le premier dimanche du mois de juin, et puis on a la fête patronale qui est toujours le dimanche qui suit le 15 août. On reste dans les traditions.
Ben c'est bien. On regarde l'avenir, mais on est enraciné dans les traditions. En tout cas, merci infiniment Guy Lecomte, maire de Corroy-lès-Hermonville, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très très bonne journée, et puis à bientôt sur RCF. Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci Guy Lecomte d'avoir été avec nous. On retrouvera bien sûr d'autres maires la semaine prochaine. Et puis, chose promise, chose due, à partir du 13 mai, vous aurez des maires nouveaux que vous n'avez pratiquement jamais entendus de communes des Ardennes et de la Marne qui viendront apporter leur témoignage sur leur commune. Tout de suite, nous revenons sur l'événement. L'événement de la semaine, c'est bien sûr la marche des vocations, semaine des vocations, avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et Monseigneur Étienne Véteux. On y revient sur le programme d'aujourd'hui. Mais en tout cas, dès ce matin, vous avez pu l'entendre sur l'antenne de RCF, nous revenions sur cet événement avec en particulier un certain nombre de témoins. Je vous propose de revivre ce que nous diffusions ce matin. C'était en direct sur RCF. Vous le savez, depuis lundi, nous suivons les vocations, ou plutôt le pèlerinage des vocations. Et 7 diocèses de notre province y participent. Et dans le diocèse de Reims-Ardennes, on est parti depuis lundi, Saint-Antoine de Haut-Buté jusqu'à Charleville, mardi du Carmel de la Fontaine-Olive jusqu'à Signy-l'Abbaye. Et puis hier, nous faisions escale avec Monseigneur Éric de Boulogne-Beaufort et Monseigneur Étienne Véteux au sanctuaire Notre-Dame de Neuvisy, marche autour de Notre-Dame de Neuvisy, qui donnait aussi le coup d'envoi du mois de Marie, pèlerinage marial dans ce sanctuaire diocésain. L'occasion pour nous de participer aussi à cette célébration vivante, joyeuse, avec des diocésains venus bien sûr de l'espace missionnaire, mais d'un peu partout, dans la joie, sous le soleil et avec des témoignages, comme par exemple cet hospitalier de l'hospitalité de diocèse de Reims-Ardennes.
Bah, d'une part, Neuvisy, c'est un haut centre quand même de... une basilique très importante qui compte dans l'univers champardennais. Et puis aujourd'hui, on en profite pour faire une réunion un petit peu de tous les hospitaliers de Lourdes. Et donc, on est venu de toute la Marne, les Ardennes. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a énormément de monde. On a du mal à se garer, c'est très bien.
C'est dans le cadre aussi du pèlerinage marial à Neuvisy et aussi du pèlerinage des vocations.
Ah bah tout à fait, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, nos monseigneurs, entre guillemets, seront là pour nous guider et on fera une marche cet après-midi dans le cadre. Et en plus de ça, la météo est avec nous puisque c'est la seule région de France où il va faire beau, du soleil, il fera chaud, donc c'est formidable.
J'ai vu d'ailleurs que vous étiez équipé, vous aviez les chaussures pour.
Ah ben oui, on s'est équipé hein, pour marcher, pour suivre Monseigneur dans les petits chemins des Ardennes.
Témoignage recueilli sur place à l'issue de la célébration. Il faut dire qu'il y avait aussi un futur diacre, lecteur et acolyte, Jean du Voyage, qui participait à cette rencontre. Ils sont actuellement installés au parc des expositions de Charleville-Mézières, où ils ont installé une sorte de chapelle, de petit hôtel. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort était sur place. On le retrouvera d'ailleurs demain lors de l'étape qui conduira autour de Verzy. Mais Monseigneur Étienne Véteux était bien sûr aussi présent, comme il l'est depuis lundi dernier, et nous l'avons interrogé, c'était à l'issue de la célébration. Monseigneur Étienne Véteux, vous êtes ici en plein soleil, j'allais dire, à Notre-Dame de Neuvisy. Comment avez-vous vécu cette célébration et ces deux jours de marche ?
Alors, les deux jours de marche ont été vraiment formidables. D'abord, on prie avec son corps et c'est vraiment une prière où on s'engage. Et puis, on a senti, on était en communion, il y avait beaucoup de gens au début et à la fin de la journée. Et puis, pas mal de gens qui marchaient avec nous. C'est un excellent moment aussi pour rencontrer les gens. Finalement, on sent qu'on est là pour prier pour les vocations, bien sûr. Mais il y a aussi l'aspect de la rencontre, du partage. On a du temps pour parler avec des personnes. De tous ces espaces missionnaires.
Des personnes différentes à chaque fois. C'est une étape comme un peu dans un tour de France des vocations dans les diocèses. Des noyaux différents à chaque fois ?
Oui, on voit que d'abord il y a les différences de différentes régions et puis on a l'occasion de rencontrer des personnes de métiers, d'activités différentes. Je viens de passer la nuit dans une famille, vraiment une très très belle, un couple âgé d'agriculteurs à la retraite qui ce matin m'ont fait découvrir les robots de traite. Donc c'était une très belle expérience. Mais j'ai aussi pu rencontrer des gens qui étaient très impliqués dans leurs espaces missionnaires, dans différents mouvements. Une découverte de la beauté, de la diversité de l'Église.
Alors, il faut dire que ce jeudi matin, vous reprenez la route d'Hermonville à Muison, puis ensuite, vous allez aller à Verzy. Ça veut dire que pour vous, cette aventure des vocations, pour prier les vocations, pour rencontrer les personnes, elle se poursuit.
Oui. Moi, je suis persuadé qu'on a besoin de redonner aux gens le désir qu'il y ait des vocations, l'espérance qu'il peut y avoir des vocations. On se rend compte dans les sondages faits auprès de séminaristes que quand on leur demande qu'est-ce qui a été déterminant dans votre appel, bien sûr, il y a l'appel de Dieu, mais après, 9 séminaristes sur 10 disent « c'est quelqu'un qui m'a interpellé, quelqu'un qui m'a posé la question ». Donc, si tout le monde porte cette question, on va beaucoup plus avoir et la joie, et puis le courage d'en parler à nos jeunes.
Et puis samedi, un rendez-vous avec les 7 diocèses, 7 à la cathédrale et à la basilique Saint-Remi. Monseigneur Tienne Vetteux, pour vous, c'est un moment important aussi.
Il faut qu'on mette nos forces en commun. Et là, d'avoir les 7 évêques des 7 diocèses, d'avoir des délégations de ces différents diocèses, ça montre que nous serrons les coudes. Jésus a dit, si 2 ou 3 d'entre vous sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous, votre prière sera écoutée. On voit déjà que notre prière pour avoir du beau temps a été écoutée. Nous espérons que notre prière pour avoir des vocations sera aussi entendue au centuple.
Et puis vous l'avez dit la semaine dernière sur l'antenne de RCF, vous aviez rencontré des séminaristes à l'abbaye de la Grâce. Il y a des séminaristes que vous rencontrez. Et puis il y a des jeunes prêtres qui sont là, qui ont été ordonnés il n'y a pas si longtemps.
Oui, on sent que tous ces séminaristes prient pour nous et sont vraiment impliqués. Et les jeunes prêtres qui sont avec nous, puis même les prêtres d'un certain âge, désirent vraiment que d'autres puissent vivre la même expérience que eux. Tous ces prêtres disent qu'ils sont heureux dans leur ministère. Et j'espère que ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut attirer.
Et pour vous, jeune évêque, mais qui commençait à connaître bien le diocèse de Reims et des Ardennes, ce parcours sur le terrain, c'est une manière originale et sans doute profonde de rencontrer le terroir diocésain.
Absolument. Je crois qu'il n'y aurait pas de meilleure manière que de rencontrer les gens pas à pas. On passe par des villages, il y a des portes de maisons qui s'ouvrent, on rencontre des gens qui ne font pas partie du petit groupe mais avec qui on peut parler. C'est vraiment une pastorale de proximité.
Merci Monseigneur Étienne Vetteux et puis bonne route et à bientôt sur RCF. Merci.
À Neuvisy, comment ne pas interroger le diacre Jacques Houdard qui connaît Neuvisy par cœur et l'espace missionnaire. Il était avec nous et c'est l'occasion de partager notre joie de nous retrouver avec cette famille diocésaine rassemblée. C'était hier à l'issue de la célébration. Jacques Houdard.
Ben, je vis ça dans la joie, le soleil est pour nous et avec nous. Et voilà, une belle célébration, une assemblée importante et active. Et puis une association qui nous aide
Un lien entre le pèlerinage marial de Neuvisy le 1er mai et le pèlerinage des vocations.
Alors oui, cette année c'est vraiment particulier dans le sens où on est... au milieu du pèlerinage pour les vocations et que notre marche cet après-midi sera un petit peu bouleversée, notre pèlerinage par rapport aux années précédentes où on va faire un parcours autour du sanctuaire de 6 km et on intégrera dans ce parcours la prière qui était prévue sur le chemin marial par rapport au mystère glorieux qui parcourt ce chemin marial.
Merci, c'était Jacques Houdard, diacre dans le diocèse de Reims et des Ardennes. Alors on rappelle le programme de la journée d'aujourd'hui. Nos deux évêques partent de l'église d'Hermonville ce matin à 9h. À midi, ils participent à une messe, ils célèbrent une messe avec les sœurs bénédictines à Saint-Thierry, puis un pique-nique, puis une marche de Saint-Thierry jusqu'à Muison à partir de 14h. Et à 18h, l'office des vêpres et adoration à l'église de Muison. Il faut savoir pour les diocésaines et les diocésains, non seulement de l'espace missionnaires, mais aussi de Reims ou des environs, ou d'ailleurs, qu'ils peuvent venir se joindre à cette marche à n'importe quel moment. Au départ, bien sûr, pour ne pas louper le départ, c'est à 9h à l'église d'Hermonville, s'ils le souhaitent. À midi, ils peuvent joindre directement la messe, ils peuvent aller à la marche à 14h, ou ils peuvent tout simplement aller à 18h à l'Office des Vêpres et l'adoration à l'église de Mizon dont je viens de parler. Voilà un beau programme. Merci de nous avoir accompagnés. Et puis, bonne chance, bonne route pour ces compagnons qui cheminent dans le diocèse de Reims et des Ardennes en espérant que les séminaristes que nous avons déjà interrogés sur notre antenne soient demain encore plus nombreux et qu'il y ait de nombreuses vocations. Très bonne journée sur RCF.
La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, ta résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu.
Voilà, c'était un extrait de La première en chemin que nous entendons, puisque à Neuvisy, vous l'avez bien compris, c'est un pèlerinage marial qui s'est ouvert hier le 1er mai. Et vous savez que le mois de mai, c'est le mois de Marie. On en reparlera d'ici quelques jours avec Jacques Houdard, diacre, qui sera avec nous dans la semaine du 14 et du 15 mai. L'occasion pour nous de prendre le train, ou d'une certaine façon, en restant en gare, c'est avec Reims la Magnifique. La Magnifique, c'est le surnom donné à la gare de Reims, construite en 1854. Vous savez que cette gare, elle a été doublée en quelque sorte par Épernay. Il y a toujours une rivalité entre Épernay, Châlons et Reims. Eh bien, c'est Épernay qui avait gagné la première gare en Champagne-Ardenne lors de l'avènement du rail. Et Reims était un peu, comme on dit familièrement, à la ramasse, à partir du moment où il n'y avait pas eu cette voie de rattachement, puisque la ligne jusqu'à Paris passait par Épernay et pas par Reims. Eh bien, les explications de tout cela, nous l'avons avec Hervé Chatriot. Hervé Chatriot, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on vous avait retrouvé il y a quelque temps dans une première émission, oui, où on découvrait votre livre, j'allais dire, magnifique, un magnifique livre. Mmh. C'est Reims la Magnifique, c'est le nom de la gare de Reims, qui a toute une histoire. Et ce livre est exceptionnel parce qu'il raconte l'histoire d'une gare, depuis l'origine, le chemin de fer. On avait évoqué dans la précédente émission la création de cette gare, 1854, qui avait bouleversé la ville de Reims. C'est une arrivée exceptionnelle, l'arrivée du chemin de fer. Quelles sont les grandes dates que vous retenez, les grands moments de cette gare de Reims?
Alors, toute la constitution de l'étoile ferroviaire avec les différentes lignes, ça, ça a été un grand bouleversement et ça a vraiment été quelque chose de très important sur le développement économique. Après, ce que j'en retiens, c'est que la gare de Reims, elle a traversé aussi notre histoire et l'histoire aussi des Rémois. Et je pense surtout aux guerres. On pense souvent à la première et la deuxième guerre, Jean-Pierre.
Bien sûr.
Mais il y a aussi eu la guerre de 1870.
La guerre de 1870, c'est vrai qu'elle passe plus.
La gare de Reims a été traversée par plusieurs guerres.
Et bien entendu, à chaque fois, des dommages considérables. Il a fallu reconstruire, il a fallu refaire cette gare.
Oui, mais il y a eu aussi de beaux faits d'armes. Il faut savoir que, par exemple, en 1870, le chef de gare, un certain monsieur Mencier, eh bien, il va entreprendre une expédition et il va aller même récupérer du matériel aux Prussiens. Et donc, il part à l'assaut. Et d'ailleurs, il aura donc la Légion d'honneur pour fait de guerre. Ce sera le premier chef de gare pour avoir la distinction d'être chevalier de la Légion d'honneur pour fait de guerre.
C'est incroyable. Alors c'est vrai qu'on a dans une gare aussi toute l'évolution à la SNCF, évidemment. Avant, il y avait des compagnies, on pourrait y revenir largement, du matériel, machine à vapeur, puis ensuite les trains, puis aujourd'hui le TGV. Donc quelle évolution! Mais en même temps, c'est vrai que votre livre nous apprend quelque chose sur la ville. D'ailleurs, vous avez cherché des archives dans la gare, mais il y en avait peut-être peu. Mais vous avez, dans la presse locale ou à l'extérieur, par des rencontres avec Patrick Demuy, avec Pierre-Emmanuel Tétinger, ouvert des espaces et des horizons qui donnent à votre livre une dimension beaucoup plus grande que simplement l'histoire du bâtiment lui-même.
Oui, je voulais pas me rester sur le côté bâtiment, où finalement il n'y aurait pas eu de vie. J'ai voulu savoir quelle est la vie qu'il pouvait y avoir. Donc j'ai consulté énormément de documents, mais également j'ai fait de très belles rencontres. Et ça m'a permis de découvrir certains faits divers ou de choses totalement incongrues.
L'arrivée de Buffalo Bill, c'est le vrai Buffalo Bill.
Ah, c'est
pas Buffalo Bill, c'est en quelle année alors?
1905, William Cody.
Il arrive en train.
Il arrive en train, mais pas en seul train. Il va 3 trains spéciaux, 65 wagons, 800 hommes, 500 chevaux. Donc c'est quand même une belle logistique.
Mais alors les chevaux étaient dans les trains?
Ah oui.
C'est extraordinaire.
Il faisait une tournée. C'était une tournée d'exhibition. En fait, c'était un spectacle qu'il faisait de ville en ville. Donc, il est venu à Reims pendant 3 jours. C'était au mois de juillet. Et c'était un spectacle énorme. Énorme et tellement extraordinaire que les journalistes d'époque diront « Il a été possible de faire le tour du monde en 80 jours. Nous, à Reims, on a pu le faire en 2h30. »
C'est un spectacle, on parle aujourd'hui des grands spectacles comme le Puy du Fou, comme ailleurs. Là, il y avait une imagination, une créativité exceptionnelle avec Buffalo Bill.
Exactement, c'était une démonstration avec les chevaux de tir exceptionnels. Vous aviez en fait une pléthore de nationalités. Vous y aviez des Japonais qui côtoyaient les Chinois ou alors les Indiens. Il y avait des tribus d'Indiens, il y avait 86 Indiens qui se sont venus et montré leur talent, je disais, équestre ou au tir.
Et ils sont arrivés bien sûr à la gare de Reims. Il y a eu sans doute, bien sûr, Hervé Chatriot, des présidents de la République qui sont venus, des personnalités importantes qui sont passé par la gare, évidemment.
Oui.
Vous en avez quelques-unes en tête.
Oh oui, moi, ma préférée.
À dites voir, quelle est votre préférée?
Alors, c'est Nikita Khrouchtchev, qui a été reçu d'ailleurs par Jean Tétinger.
Absolument.
Et en fait, il est reçu dans les années 60.
Il était arrivé en train, Nikita Khrouchtchev.
Ah, bah, bien sûr
qu'il voyageait en train.
Oui. Il voyageait en train. Il faisait tout un parcours au niveau de la France.
Pas d'avion pour Nikita Khrouchtchev. Il a pris, bon, pour aller aux États-Unis, il est allé une fois.
On va dire train plus avion.
Train plus avion. Mais c'était un événement.
C'était un événement et il a été particulièrement reçu. Et le détail qui est assez amusant, c'est que c'était à cette époque-là la fin des locomotives à vapeur. Mais il fallait faire bonne figure à Reims. Du coup, on les a repeintes, les locomotives à vapeur. Mais uniquement que du côté où elles auraient pu être visibles.
Ah, mais ça, c'est les économies de la SNCF. Voilà. On peint d'un côté le wagon, mais il fallait pas tourner de l'autre côté.
Exactement. Bon.
Mais alors, c'était des beaux wagons tout rutilants, on imagine.
Ah bah oui, tout à fait. Mais au-delà, il fallait pas donner l'impression que la France, que la ville, j'aurais un peu négligé son matériel. Donc, il fallait faire bonne figure. Et pour faire bonne figure, eh ben, même sur les anciens matériels, eh ben, on leur donnait un petit coup de jeune, mais que d'un côté visible, c'était vraiment que pour la forme.
Alors, évidemment, la gare, quand on regarde, on se dit, y a rien, on rentre, on prend son billet, on est sur le quai, bon, y a rien à voir. En fait, il y a toute une logistique, bien sûr, à la fois aujourd'hui technologique, et puis il y a aussi la rotonde, enfin, on refait aussi des trains, on les entretient, et puis il y a le fameux Vladimir qui reste quand même la locomotive. Dans une gare, on aime conserver un train.
Oui. En fait, grâce à l'impulsion de Corinne Deville Tétinger, la mère de Pierre-Emmanuel Tétinger, on a pu garder la 8e locomotive au monde, la 140C, donc 313. Il ne reste plus que 8 au monde. Et en fait, elle a une histoire assez fantastique. Et donne d'ailleurs, dans cette gare où tout le monde est pressé, quelque chose qui est assez affectif, sensitif. Et c'est quelque chose qui est quand même remarquable d'avoir ça en gare.
Combien, alors vous n'avez peut-être pas le chiffre en tête, de personnes passent, par exemple dans la gare centrale, on ne va pas parler de la gare TGV à Besançon, mais la gare centrale de Reims, par an, il y a plusieurs dizaines, centaines de milliers de personnes.
On dit souvent, on a à peu près à 4 millions de voyageurs par an, et où on rajoute, pourrait peut-être 1 million de personnes qui ne font que de transiter par la gare, de traverser pour aller de quartier à quartier.
Alors il est vrai qu'avec les travaux, avec l'esplanade aujourd'hui, il y a une ouverture bien sûr sur cette gare. Vous êtes, on peut dire, amoureux des gares. Vous aimez les gares.
Oui. J'avoue que j'y peux rien. C'est pas ma faute. Je suis tombé comme ça.
Et pas seulement celle de Reims. Vous avez été à Charleville, Revin, enfin, vous êtes allé ailleurs. Mais celle de Reims particulièrement.
Oui, c'est vrai que j'ai un certain attachement à cette gare. Alors, c'est peut-être son histoire, son implantation. J'ai eu aussi un attachement au niveau de la gare de Charleville, avec la couleur de ses volets, ses menuiseries, où j'ai été assez sensible. Et peut-être, voilà, simplement que je suis resté un peu plus longtemps à la gare de Reims et je me suis un peu plus pris d'affection. Voilà.
Alors, on termine parce que le temps passe très très vite. On fera une troisième émission un autre jour. Je le signale, on l'avait déjà dit dans la première, en dessous de la gare de Reims, et il y a des adeptes du sport, du tir. Il y a un stand de tir juste en dessous des tickets quand les gens passent au-dessus. Ça, les gens ne le savent pas.
Les balles sifflent sous la salle des pas perdues. Alors effectivement, c'est du tir sportif, que ça soit à pistolet ou
en carabine. Merci Hervé Chatriot de la direction des gares de Champagne-Ardenne d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre Reims, la magnifique. J'allais dire bon, c'est banal, mais c'est un livre magnifique lui aussi. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Merci à vous.
Le 18-19 sur RCF.
Vous aimez découvrir la campagne, la nature et l'art? Eh bien, tout cela, vous pouvez le retrouver à Cerzy-Éprun avec Jean-Jacques Frémaux qui est avec nous. Jean-Jacques Frémaux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous parce que nous allons vivre un événement comme chaque année, mais qui est aujourd'hui et cette année exceptionnelle. Du 17 au 20 mai, c'est à Cerzy-Éprun des expositions où l'art et le patrimoine sont mis à l'honneur. C'est un rendez-vous habituel, mais cette année, c'est pas mal. Il y a beaucoup de choses.
Voilà, oui, cette année, il y a beaucoup de choses, parce qu'en fait, on était parti sur l'idée de faire une exposition de photographies d'exploration urbaine de Sébastien Lopin. Photographies qui ont été faites dans la Minoterie, qui est une friche industrielle abandonnée depuis une cinquantaine d'années.
Jean-Jacques Frémaux, il faut préciser quand même aux auditeurs et aux auditrices des Ardennes et de la Marne que Cerzy-Éprun, c'est un village de combien d'habitants, Jean-Jacques?
Alors, je crois que c'est 211 habitants et ça fait partie du Grand Reims.
Vous les avez tous recomptés. C'est bien 211 et pas 212. Hein.
Ah, je ne suis pas si sûr.
Donc, il y a 211 habitants à Cerzy-Éprun. Combien de kilomètres de Reims?
25 kilomètres à peu près.
25 kilomètres. Et l'objectif de votre rencontre du 17 au 20 mai, tous les jours de 14h à 19h, c'est de parcourir Cerzy-Éprun, de découvrir des photos, des expositions, mais aussi, et cette année en particulier, le patrimoine.
Tout à fait.
Alors on s'arrête dans une minoterie qui est complètement inutilisée depuis pas mal d'années.
Voilà.
Mais on va dans cette minoterie.
Alors on ne va pas dans la minoterie.
On va dans l'entrepôt.
On va dans un entrepôt où on a recréé une ambiance de minoterie avec une mise en lumière, avec une bande son qui évoque la minoterie. Il y a un cours d'eau qui coule et puis il y a des bruits comme c'est une friche industrielle. Il y a des bruits d'oiseaux, il y a des bruits d'avions, il y a des bruits de corbeaux, des chiens qui passent. Et puis, il y a aussi l'évocation du passé, avec des bruits de machines.
Alors, vous mettez tout le monde dans le coup, par exemple, avec Véronique et Jean-Jacques Valette, des cartes postales.
Voilà, alors, ils m'ont proposé, Véronique et Jean-Jacques Valette, font un gros travail sur Reims, depuis une douzaine d'années, ça s'appelle Reims Avant. À partir de cartes postales anciennes, ils font des vues actuelles de ce qu'est Reims. Et ils m'ont proposé de faire la même chose pour Cerzy. Et on a la chance d'avoir une habitante de Cerzy qui a une collection très complète de cartes postales de Cerzy qu'avait commencé sa tante. Et ils sont partis de cette collection-là pour refaire des prises de vue.
Alors on le dit à nos auditrices, à nos auditeurs, c'est l'occasion d'une balade dans le village. Parce que, on imagine, 17-20 mai, il va faire beau. On le souhaite, 14h-19h, on se balade dans le village et puis on voit des expositions d'artistes, que ce soit au Point Info, au Pressoir, au Cellier, dans la cour Cochon, sur le parking, dans la grange. Il y a des lieux assez exceptionnels et puis il y a des expositions, surtout beaucoup de photos quand même.
Alors, il y a un peu de tout quand même. Il y a des photos, il y a un film expérimental, il y a Bulle Batala qui expose ses photographies, Patrick Fabry, il y a aussi effectivement Sébastien Lopin avec les photos de la minoterie, parce que c'est des photos d'art qu'il fait. Et puis, il y a de la sculpture. Il y a de la sculpture avec Daniel Bouvier. Il y a des arts plastiques avec Anthony RSM et puis Marianne Zuba Caruso qui va faire un arbre sur un espace dans la rue principale de Cerzy.
Oui, vous avez des sculptures aussi avec Daniel Bouvier, mais aussi avec Nikita Bayet, avec des peintures avec Patrick Bayet, des assemblages d'objets. Enfin, bref, on découvre des artistes.
Tout à fait.
Et on peut discuter avec eux.
Et on peut discuter avec eux. Ils sont là pendant tous les moments d'ouverture. Et en fait, l'idée de cette manifestation, c'est d'ouvrir l'art au plus grand nombre. C'est pour ça que l'entrée est gratuite. Hein, c'est en entrée libre. C'est accessible à tous. Et c'est effectivement pour montrer qu'il y a plein de belles choses et qu'il faut s'entourer de beaux.
Et puis on peut quand même découvrir aussi le village en passant, c'est-à-dire l'église, le lavoir, la ruelle de la chapelle, alambic, la minoterie Saint-Lô, bon, qui n'est plus utilisée. On peut se promener, ça c'est très important.
Tout à fait. Alors nos visiteurs depuis plusieurs années, ça leur a beaucoup plu cette itinérance dans le village. En gros, il y a les deux extrêmes, il y a un petit kilomètre à parcourir, et dans ce kilomètre à parcourir, ben, on découvre l'alambic dans une petite ruelle, on découvre un sentier pédestre de derrière les murs où il y aura une exposition de photographies sur la biodiversité et la faune à Cerzy. Donc c'est un projet de la municipalité que la municipalité a entrepris il y a déjà quelques années. Et puis après, on se retrouve dans une des rues principales de Cerzy, qui est une rue très ancienne, avec un habitat de vieilles maisons de pierre, et qui nous mène jusqu'à la minoterie.
On a même des silex taillés avec un artiste qui taille les silex, poli de la vallée de l'Ardre, Marc
alors,
de Villiers.
Alors, c'est un découvreur. En fait,
C'est un découvreur.
En fait, si vous voulez, après le labour, on est entouré de bois, mais aussi de vignes, mais aussi de champs. En fait, après le labour, à l'automne, et les pluies...
On retrouve des silex.
Vous retrouvez les silex qui sont à fleurs. Donc, il n'y a même pas... Vous fouillez pas. C'est juste qu'ils sont à fleurs.
Ils sont montés comme ça.
Ils sont montés. Et moi, une fois avec cet homme-là, Marc de Villiers, j'étais avec lui, j'ai trouvé un petit couteau. Voilà, en silex, un couteau de 7-8 cm.
Alors, on ne sait pas de quelle époque ça date.
Alors, c'est plusieurs millénaires, hein, ça c'est clair.
C'est quand même impressionnant. Voilà. Pour Reims, il suffit de suivre quel itinéraire pour venir.
En fait, il faut prendre la route de Soissons et à Jonchery-sur-Vesle. On tourne à gauche, direction Branscourt, Savigny-sur-Ardre, et on est à Cerzy.
Et puis on a un GPS, on peut marquer Cerzy
voilà.
Et Prin.
Et puis il y a un site internet où on retrouve tout ce que je viens de dire, qui s'appelle www.lapartdelambre.fr.
Et puis aussi, au Point Info, le vendredi en particulier, des conférences avec Dominique Charret, Olivier Daubercy et Vili Dubos,
oui,
sur le pain. Ça, c'est aussi intéressant, la dégustation du pain, parce qu'il y avait des moulins à Cerzy-et-Prin.
Tout
donc
à fait.
Vous parlez du pain, c'est normal.
Ben voilà. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'en partant de la minoterie, c'était clair qu'il fallait parler du pain. Et donc, Dominique Charret, de l'association Entre deux terroirs, a cherché de la documentation et tout. Elle a découvert qu'il y avait eu deux moulins à Cerzy. Et donc, elle va faire une conférence là-dessus.
Sur les meuniers.
Sur les meuniers.
Hein. Alors, il y a aussi Richard Dupuis qui parlera patrimoine. Oui. Et Olivier Daubercy, Willy Dubos, on l'a dit. Et puis, les amis des moulins marnais qui vont présenter les ouvrages édités par leur association sur les moulins du tout département. Vous avez trouvé quand même une cohérence, je veux dire un conducteur autour de la minoterie, du pain, des territoires.
Tout à fait.
Alors ça, c'est une très très bonne idée de balade. En tout cas, entre le 17 et le 20 mai, c'est de 14h à 19h. Venez nombreux et puis on y sera, Jean-Jacques Frémaux. On vous accompagnera.
Bien volontiers.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous et puis on en reparlera dès que possible. Merci Jean-Jacques Frémaux.
Eh ben merci Jean-Pierre Benoît.
Et à bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Voilà, merci Jean-Jacques Frémaux d'avoir été avec nous. Ainsi s'achève notre magazine. Deux informations rapides. La marche des vocations se poursuit demain. Elle partira à 9h depuis l'église de Verzy pour l'office des Laudes. À midi, il y aura un pique-nique. À 17h30, une messe à Rigny-la-Montagne. Et à 20h, une veillée de prière chez les Sœurs Clarisse à Cormontreuil. Si vous êtes auditrice ou auditeur de RCF, vous pouvez rejoindre soit la marche en allant du côté de 9h à Verzy, soit bien entendu la messe à Rilly à 17h30 ou la veillée de prière chez les Clarisses. En attendant, à souligner que demain matin, nous serons en direct avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort pour parler de cette dernière journée de marche avant le grand rendez-vous de samedi. Bonne soirée à l'écoute des programmes de RCF.